J'ai une très bonne question pour vous. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu vient habiter dans une personne? Tous ceux qui ne connaissent pas la réponse à cette question ont tout avantage à écouter ce que la parole de Dieu va nous enseigner aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Je crois que vous serez d'accord avec moi en entendant ces questions. Les voici. Qu'est-ce qui nous permet de marcher dans la sainteté et la pureté? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu vient habiter dans une personne? Comment est-ce qu'un croyant devient affermi? Qu'est-ce qui fait qu'un croyant est en sécurité? Comment pouvons-nous être guidés dans la vérité? Qu'est-ce qui indique qu'une personne appartient à Dieu? Qu'est-ce qui garantit le salut du croyant? Est-ce qu'un pasteur doit réprimander son assemblée parfois? Qu'est-ce qu'une église doit faire quand une personne qui a été excommuniée se repent? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et je suis certaine qu'on sera tous encouragés et bénis par l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient te prier. On vient parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. C'est en toute humilité, Seigneur, qu'on vient vers toi pour te demander de pardonner tous nos péchés, de nous pardonner tous nos égarements et de nous remplir de toi aujourd'hui, de nous remplir par ta parole, par ton Esprit Saint, en toute connaissance, en toute vérité, pour qu'on puisse être des bons serviteurs. Des bons enfants de Dieu qui marchent droitement dans ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu permet que les croyants aient des afflictions. Celles-ci servent à trois choses. Premièrement, le croyant apprend à s'appuyer uniquement sur son Dieu. Deuxièmement, le croyant demeure dans les voies de Dieu. Et, troisièmement, le croyant devient un consolateur pour les autres. Paul a éprouvé de nombreuses afflictions au cours de son ministère, dont il parlait en connaissance de cause. Son christianisme n'était pas que de la théorie philosophique. Elle était très pratique, cette connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la suite du thème de la dernière émission, donc nous allons reculer et relire quelques versets de cette émission. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Paul a passé par de nombreuses afflictions et Dieu l'en a délivré. Maintenant, à cause de ses expériences, il fait grandement confiance en Dieu. Il peut même se réjouir dans l'affliction. Verset 16. « Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. » Paul n'a pu accomplir ce projet, mais ce n'est pas parce qu'il est volage. Paul respecte ses engagements. Il est un homme de parole. Dieu a guidé Paul sur un autre parcours. Paul ne parlait pas à la légère, donc il est une personne fiable, et son enseignement est fiable. Paul se conduisait avec sainteté et pureté devant Dieu. Verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Oui, chers amis, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de marcher dans la sainteté et la pureté plutôt qu'avec une sagesse charnelle. Dieu nous enseigne à faire cela par la souffrance et les épreuves. Nos afflictions sont en fait une grâce de Dieu. Verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui ou non. Paul ne parlait jamais à la légère. Lorsqu'il disait oui, il voulait dire oui. Et s'il disait non, c'était non. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. L'Évangile est un message sûr. Jésus-Christ a donné sa vie pour nos péchés. Il a prononcé un oui retentissant en ce qui concerne notre salut. Le Fils n'a pas hésité à donner sa vie en rançon pour la nôtre. Nous pouvons avoir entièrement confiance dans la bonne nouvelle. Nous pouvons faire confiance à Jésus pour le salut de notre âme. Tout est accompli. Le Seigneur Jésus est le oui, l'amen de la promesse de Dieu. Verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout est positif en Jésus-Christ. Le Seigneur nous veut du bien. Il veut que nous soyons des consolateurs pour les autres. L'affliction subie et la consolation reçue augmentent notre foi en Dieu et nous qualifient pour en aider d'autres. Versets 21 et 22. Et celui qui nous a fait remis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. L'Esprit habite le croyant. Non seulement notre Dieu est-il fidèle et vrai, le Fils un sauveur sûr, mais l'Esprit habite en nous si nous sommes croyants. Je crois sincèrement que ce verset nous présente tout le ministère du Saint-Esprit de nos jours, celui qui vient habiter dans le croyant. Que signifie être affermi? Et celui qui nous affermit? Comment devient-on affermi? Lorsque Paul écrit sa première épître aux Corinthiens, qui était très volage, il a conclu sa lettre en disant « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Que signifie être affermi? Nous croyons que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Premièrement, l'Esprit nous convainc de pécher. Le Seigneur Jésus a dit que lorsque l'Esprit viendrait, il convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16. Et si une fois convaincus de péché, nous les confessons et que nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur, alors l'Esprit nous régénère, nous donne la vie. Non seulement nous régénère-t-il, mais il vient habiter en nous. Non seulement habite-t-il en nous, mais il nous baptise dans le corps de Christ. En fait, relisons ce que Paul a dit et observez un détail très intéressant. Et celui qui nous a fait remis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Dieu? Dieu le Saint-Esprit. Qui d'autre? Le Dieu Trinitaire. Le Saint-Esprit. Oui, chers amis, nous sommes en sécurité parce que nous sommes un membre du corps de Christ. Lorsque l'Esprit nous baptise en Jésus-Christ, nous faisons partie de son corps. Nous ne sommes pas en sécurité parce que nous sommes entre les mains de Jésus, mais parce que nous sommes un bras de Jésus. Nous sommes en sécurité parce que nous sommes un membre du corps de Christ. C'est la sécurité la plus merveilleuse que nous avons. En parlant du travail de l'Esprit, Paul emploie le temps présent. C'est ce que l'Esprit fait pour nous aujourd'hui, mes amis. Il nous convainc de pécher, il nous régénère, il habite en nous et il nous baptise. Seul l'Esprit peut nous guider dans la vérité. Et celui qui nous a oint, c'est Dieu. L'onction de l'Esprit est une vérité souvent négligée dans l'enseignement de la parole de nos jours. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, nous lisons. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. et vous avez tous de la connaissance. Ceci est l'onction de l'Esprit. Seul l'Esprit peut nous guider dans la vérité. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Ce ministère de l'Esprit est très important. Il ne vous envoie pas un diplôme par la poste, et il ne vous donne pas la science infuse. Vous avez le Saint-Esprit pour vous enseigner, mes amis chrétiens. Et lui seul peut ouvrir votre intelligence afin que vous compreniez la parole de Dieu. C'est ce qui fait que la Bible est un livre miraculeux. Jésus a dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » L'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 et 13. L'Esprit veut vous enseigner et vous guider dans la vérité. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Ceci est un autre ministère merveilleux de l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Citation d'Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Est-il possible de l'attrister au point qu'il parte? Non. Il nous a scellés et il nous conduira jusqu'au jour de la rédemption. Voilà la promesse. Cela fait penser à une lettre mise à la poste. À l'occasion, une lettre peut se perdre et n'être jamais livrée à son destinataire. Si nous voulons être assurés qu'une lettre se rend à son destinataire, nous la faisons parvenir sous pli recommandé, et la poste y appose un sceau. Le service postal garantit alors la livraison de la lettre, en main propre. D'ailleurs, un sceau est apposé sur tous les documents légaux. Un sceau indique aussi un droit de propriété. Autrefois, dans l'Ouest, les éleveurs marquaient leurs vaches au fer rouge. Ce sceau permettait d'identifier le propriétaire de la vache. Chers amis, le sceau de l'Esprit indique que nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit nous scelle pour indiquer que nous appartenons à Dieu. Si vous êtes une brebis du Seigneur Jésus, vous ne vous perdrez jamais. Vous pouvez vous écarter du sentier, mais il vous retrouvera. Dans la parabole de l'Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 8, la femme qui balait son plancher jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce de monnaie perdue est une illustration du Saint-Esprit. Il nous cherche jusqu'à ce qu'il nous retrouve. L'Esprit en nous garantit notre salut et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts sont une somme d'argent qu'un parti verse à la suite d'une entente afin de garantir l'exécution de la transaction. Si vous faites un dépôt sur une propriété, cela signifie que vous en remettrez encore plus tard, toujours pour celle-ci. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et cela signifie qu'il a encore des bénédictions en réserve et que nous les aurons un jour. N'est-ce pas merveilleux? Il arrive que des gens fassent un dépôt pour l'achat d'un article, mais que la transaction soit tout de même annulée. Cependant, notre acheteur ne changera pas d'idée. Il nous a rachetés au prix de son sang. Il a remis le prix entier de la transaction, ce qui signifie que notre âme sera livrée à notre Père céleste. L'âme sauvée est en dépôt fiduciaire. Dieu a placé son esprit dans chaque croyant. Il est le dépôt. Il est venu dans la vie du croyant afin d'y apporter la plénitude de Dieu pour nous guider dans nos expériences. Avez-vous besoin de quelque chose aujourd'hui? Vous savez que Dieu est riche en grâce. Il est le Père de toutes les grâces. De quoi est-ce que vous avez besoin? Pourquoi n'allez-vous pas le demander à Dieu? Avez-vous besoin de puissance spirituelle? Avez-vous besoin de joie? Avez-vous besoin de sagesse? Avez-vous besoin d'aide? Ces choses sont des consolations, et il est le Dieu de la consolation. Paul le savait. Il en avait fait l'expérience. L'auteur de ce texte le sait aussi. Il en a fait l'expérience. Et vous, avez-vous expérimenté la présence du Saint-Esprit en vous? Verset 23. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Paul affirme que s'il était venu plus tôt, il aurait dû faire ce qu'il a fait dans sa première épître, soit reprendre les Corinthiens. Paul fut sévère dans la première épître. En fait, il dit, « Si j'étais venu, j'aurais dû vous reprendre. J'ai voulu vous épargner cela. Je voulais voir si vous pouviez régler vous-même les problèmes. » Verset 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. Paul dit, « Je ne veux pas régner sur vous. Vous avez une pleine liberté en Jésus-Christ. Je veux simplement me réjouir avec vous. C'est par la foi que vous demeurez ferme. Vous et moi devons aussi nous tenir fermes par notre foi. » Paul a retardé sa visite afin que leur foi puisse être affermie et qu'ils croissent dans le Seigneur. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu permet que nous éprouvions des difficultés. Voyez-vous, ce n'est pas vers l'homme que nous devons nous confier, mais plutôt vers le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Paul reconnaît qu'il fut un peu découragé par l'état spirituel de l'église de Corinthe. Sa visite n'aurait pas été un événement heureux. Verset 2. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? Paul ne voulait pas venir dans un état de tristesse. Personne n'aurait pu le rendre heureux alors, car tous auraient pleuré. Verset 3. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. Paul voulait apprendre qu'ils avaient réglé les problèmes mentionnés dans sa première lettre avant de venir, afin que sa visite soit une occasion de réjouissance. Maintenant, Paul ouvre son cœur aux Corinthiens. Verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Un pasteur doit reprendre l'Église lorsque c'est nécessaire. Il arrive qu'un pasteur doit parler sévèrement. Et certaines personnes n'aiment pas cela. Cependant, une réprimande provenant de la parole de Dieu fait parfois du bien. Un pasteur fidèle va le faire, même si certaines personnes ne l'approuvent pas. La Bible ordonne, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Voilà les instructions de Paul données à un jeune pasteur du nom de Timothée. Un pasteur a la lourde responsabilité de reprendre les siens. De nombreux chrétiens n'aiment pas cela. Paul affirme qu'il a repris les Corinthiens. Non parce qu'il est leur ennemi, mais parce qu'il les aime. Un pasteur fidèle démontre son amour en prêchant la vérité avec exactitude et non en flattant l'assemblée avec des paroles doucereuses. Dans sa première épître, Paul avait demandé aux Corinthiens d'exclure un homme de l'assemblée car il vivait ouvertement dans l'immoralité en pratiquant l'inceste avec l'épouse de son père. C'est ce que fit l'Église de Corinthe. Paul traite de nouveau de cette affaire, les versets 5 et 6 de 2 Corinthiens chapitre 2. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. L'homme fut excommunié et il s'est repenti de son péché. Que doit faire l'Église ? Versets 7 et 8. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Une assemblée doit accueillir un pécheur repentant. Il ne faut pas trop accabler cet homme en refusant de l'accueillir de nouveau après sa repentance. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates, chapitre 6, verset 1er. Revenons à notre texte de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 11. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Chers amis, nous avons tous le même adversaire, le diable, essaie toujours de nous faire bifurquer sur le mauvais chemin. Il nous encourage à fermer les yeux au sujet de l'immoralité grossière. Cela fait beaucoup de tort aux églises. Cependant, lorsqu'une personne coupable de péché se repent, abandonne son péché, nous devons lui pardonner. De nombreux chrétiens hautains refusent de pardonner aux chrétiens repentants. En faisant cela, ils servent le diable autant que celui qui a commis des actions immorales. En refusant de nous pardonner mutuellement, nous donnons un avantage à Satan. Dans de nombreuses églises conservatrices, nous n'entendons pas souvent qui que ce soit confesser un péché et demander pardon pour celui-ci. De plus, nous entendons rarement les gens pardonner à ceux qui ont confessé un péché. C'est triste de réaliser que le pardon est absent de plusieurs églises. Rappelons-nous que nous sommes capables de commettre n'importe quel péché. Tout ce qu'un autre a fait, nous pourrions le faire. Nous en avons les capacités. Lorsqu'un pécheur se repent, il doit être restauré dans un esprit de douceur et ensuite être accueilli de nouveau dans l'Église. Cela fait partie du ministère des Églises, accueillir les pécheurs repentants. Versets 12 et 13. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas, pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Ce n'est pas parce qu'il était volage que Paul n'est pas venu à Corinthe, mais le Seigneur lui avait ouvert une porte à Troas, afin qu'il prêche l'évangile. Cependant, Paul était triste, car il attendait que Tite lui apporte les nouvelles de Corinthe. Chers amis, êtes-vous vigilants? Êtes-vous attentifs au pas que le Seigneur voudrait que vous fassiez en sa direction, prêts à le servir, à accomplir les desseins de bonheur, de joie qu'il a pour vous? Dans quelle direction sont vos pas? Êtes-vous en train de vous approcher de ce grand Dieu? Êtes-vous sur le point de bénéficier pleinement de ses bienfaits, de sa bénédiction, qui repose sur vous, sur le chrétien fidèle, obéissant? Regarde dans quelle direction sont tes pas présentement. Est-ce que tu peux dire qu'ils sont au service de Dieu, qu'ils sont dans la volonté de Dieu, qu'ils accomplissent pleinement les desseins de Dieu pour ta vie? Est-ce que Dieu peut approuver ce que tu fais présentement? Il le voit. Est-ce qu'il l'approuve ou le désapprouve? Est-ce que tu dois t'en repentir, l'abandonner et accepter plutôt ce que Dieu t'offre présentement? Pour cela, tu as un choix. Des décisions sont à faire dans ta vie. Abandonner ce qui n'est pas de Dieu et accepter ce qu'il t'offre, ce qui vient de lui. Comme l'apôtre Paul, il a dû faire des choix dans sa vie. Il s'est laissé diriger par Dieu dans sa vie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à chapitre 3 verset 14.
Merci Régent. Tu as dit que non seulement notre Dieu est vrai, non seulement le Fils de Dieu est un sauveur sûr, mais l'Esprit de Dieu habite en nous si nous sommes croyants. Mes amis, au début de l'émission, j'ai posé une question qui allait comme ceci. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu vient habiter dans une personne? Et Régent a répondu que l'Esprit de Dieu habite en nous si nous sommes croyants. Vous allez peut-être me dire, « Je suis croyant, moi. J'ai toujours cru en Dieu. » Mais il n'y a pas longtemps, j'ai cité un verset qui nous fait réfléchir sur la foi réelle en Dieu. C'est dans l'Épître de Jacques, au 2e chapitre, verset 19. Voici ce qu'il dit. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Et je sais très bien, mon ami, que tu n'es pas un démon. Mais on voit bien ici qu'il ne faut pas juste croire en l'existence de Dieu pour être sauvé, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle et pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. Dans l'Évangile de Jean, au 6e chapitre, verset 47, Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mon ami, il faut que tu places ta confiance en Jésus seul pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Je ne te connais pas personnellement, mais je sais une chose qui concerne tous les êtres humains. C'est Paul qui nous l'affirme dans son Épître aux Romains au chapitre 3, verset 23. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'il ajoute au verset 24 qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Paul dit aussi dans la même Épître, au chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon ami, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. N'aimerais-tu pas qu'il soit ton Dieu? Eh bien, pour vivre, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus lui-même a dit ceci à Nicodème. C'est dans l'Évangile de Jean, au 3e chapitre, verset 3, il lui a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Mon ami, n'aimerais-tu pas voir le royaume de Dieu? N'aimerais-tu pas y passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, et ce, éternellement? Eh bien, tu le peux. Mais à toi-même, cela est impossible. Mais si tu crois que Jésus est Dieu fait homme et qu'il est venu sur cette terre, dans le but spécifique de donner sa vie sur la croix pour toi, comme il l'a fait pour moi. Si tu avoues que tu es un pécheur perdu qui mérite le châtiment éternel et que tu ne peux pas y échapper par tes propres moyens, eh bien, invite Jésus à entrer dans ton cœur. Avoue que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce que tu reconnais comme étant péché dans ta vie et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, GEG 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.